Nous allons commencer. Merci d'être venu. Donc, ce soir, le sujet, c'est la question du genre et les mouvements de femmes dans les pays musulmans. Évidemment, avec le programme que nous avons cette année, liberté et contrainte, on ne pouvait pas ne pas traiter de cette question-là. Mais je pense que nous n'en traitons pas, pour redire pour la centième fois ce que vous voyez, ce que vous entendez dans les médias. Donc, les femmes entièrement voilées, soumises à leur père, à leur mari, interdites de conduire des voitures, d'exercer leur profession. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas dans certains pays, dans certains milieux, mais je crois qu'il faut aller au-delà de cette image. Et qu'il faut dire que la question du genre est posée et est ouverte dans les sociétés musulmanes, et que, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et que les femmes ont d'ores et déjà accédé à un certain niveau d'études, de citoyenneté, mais que la société patriarcale se défend, ou empêche certaines évolutions, ou essaye même de revenir en arrière sur certains acquis. Donc, je crois que tout ça, ça mérite d'être analysé de façon un peu plus précise et plus détaillée. Et la lutte des femmes dans les pays musulmans peut prendre d'autres formes que celle d'une exigence d'émancipation sur le modèle occidental. Donc, se dévoiler n'est pas la seule forme d'émancipation. Jeter le voile aux orties, au contraire, on peut se voiler et avoir des exigences d'émancipation. Bien, mais je ne veux pas en dire plus. Donc, nous avons, pour parler de ces questions-là, invité Madame Azadeh Kian, qui est professeure de sociologie à l'université Paris 7, Paris Diderot, et qui est une grande spécialiste de la question. Elle est directrice du Centre d'études et de recherche sur... j'ai l'abréviation, le CEDREF.
Voilà, c'est bon, le CEDREF.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, les...
Centre d'études de recherche et de documentation en études féministes.
D'accord, voilà. Donc, et elle est aussi co-responsable de la Fédération nationale de recherche sur le genre. Bien, donc, et elle a publié des ouvrages, elle est spécialiste de l'Iran, et c'est peut-être pas un hasard que, à partir de l'Iran, on devienne spécialiste du genre, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui est tout à fait cohérent. Donc, elle a publié, le dernier ouvrage qu'elle a publié, c'est un ouvrage sur l'Iran, « L'Iran, un mouvement sans révolution, la vague verte face au pouvoir mercanto-militariste » chez Michalon en 2011. Mais elle a déjà consacré des travaux aux femmes aussi, un livre un peu ancien, 2002, « Les femmes iraniennes entre islam, état et famille ». Et aussi sur les femmes, elle a dirigé un numéro des cahiers du CEDREF, donc de la revue publiée par son centre, qui s'appelle « Genre et perspectives postcoloniales ». Et c'est publié aussi à l'Université Paris Diderot, c'est le numéro de décembre 2010, mais ce n'est qu'une petite anthologie de sa longue bibliographie, et vous pourrez lui poser des questions si vous voulez en savoir plus. Voilà, je lui donne la parole.
Merci Bernard. Bonsoir. Merci d'être venu écouter mon exposé au sujet du genre et de questions des mouvements des femmes. Alors, pas dans l'ensemble des pays musulmans, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vaste. Je n'ai absolument aucune spécialité sur l'Indonésie ni la Malaisie, par exemple. En revanche, j'ai beaucoup travaillé, Bernard Hébergel l'a dit, sur l'Iran et également sur l'Égypte, la Turquie et le actuellement aussi beaucoup sur le Maghreb. Disons en gros le Moyen-Orient et le Maghreb qui m'intéressent tout particulièrement. J'essaye, si vous voulez, après une petite introduction, de brosser très rapidement un petit peu l'historique du mouvement des femmes dans ces pays-là, et puis on verra quelles sont les entraves devant l'égalité homme-femme dans ces pays-là et pourquoi les inégalités sociales et légales entre les hommes et les femmes persistent malgré l'existence de ces mouvements. Mais ce qui m'a personnellement beaucoup frappée pour quelqu'un qui travaille sur ces questions-là depuis beaucoup d'années, c'était que quand on était face à la participation des femmes aux révolutions en cours au Moyen-Orient et au Maghreb, on a vu que subitement, leur image a changé dans les médias occidentaux, mais aussi dans l'opinion publique occidentale. Les médias souvent les présentaient jusque-là comme soumises et victimes du patriarcat historique, lequel trouverait ses origines dans l'islam, selon ces mêmes analyses. Et donc, me semble que cette construction statique et essentialiste des femmes, dont certaines, on le sait, sont voilées aussi, mais on peut être révolutionnaire et voilée, auxquelles on refusait d'accorder la puissance d'agir, est héritée de l'époque coloniale. Dans cette optique qui représente l'Orient à travers des images stéréotypées et inexactes, les femmes musulmanes seraient incapables de résister à leur oppression et encore moins d'agir sur le processus de transformation sociale. Or, quand effectivement on regarde l'histoire de ces pays-là, on constate que la mobilisation politique de ces femmes n'est pas du tout, ne date pas d'aujourd'hui, à la fois au Moyen-Orient et aussi au Maghreb. Elles se sont constituées en actrices de changement dès la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire avec la rencontre avec la modernité et surtout aussi au début du XXe, en liaison avec les mouvements nationalistes, mais aussi anticoloniaux. Par exemple, lors de la révolution constitutionnelle iranienne de 1906, on est face à la participation grande des femmes urbaines. Les femmes aussi ont beaucoup participé à la révolution égyptienne de 1919. Elles étaient aussi présentes à Istanbul en 1919, lors de la grande manifestation et bien évidemment pendant les guerres pour l'indépendance aussi en Algérie, puis l'indépendance de Maroc ou encore de la Tunisie et aussi dans d'autres, je ne vais pas tous les énumérer. Alors leur participation était certes pour l'indépendance nationale ou pour le constitutionnalisme, mais en même temps elles revendiquaient les droits politiques et civils pour les femmes, souvent. Ces dernières années néanmoins, on voit qu'il y a, on est face à un changement législatif de plus en plus important. Je pense en particulier récemment à la Moudawena marocaine, le code du statut personnel marocain et sa réforme de 2003. Peut-être plus important encore, l'octroi enfin des droits de vote et d'éligibilité aux femmes dans les monarchies arabes du Golfe Persique à partir de 2005, et encore plus récemment, la nouvelle constitution tunisienne de 2014 qui accorde le statut égal aux citoyens et aux citoyennes. On constate néanmoins que les inégalités sociales entre les hommes et les femmes perdurent, que les femmes sont encore loin d'avoir atteint l'égalité des droits avec les hommes et reste largement en dehors des sphères de pouvoir, et les écarts entre les femmes elles-mêmes aussi se sont creusés. Alors, vous pouvez me dire, mais c'est à peu près en ce qui concerne les écarts de plus en plus importants entre les femmes elles-mêmes. C'est aussi le cas dans les pays post-industriels. C'est effectivement le cas. Donc, on constate qu'il y a beaucoup de choses que partagent les femmes des pays dits musulmans avec des femmes des pays dits occidentaux. Alors, quelles sont les causes de ces inégalités hommes-femmes dans les pays qui nous intéressent ce soir? Est-ce l'islam, comme beaucoup le prétend, dont une lecture misogyne constitue souvent la principale ou l'une des principales sources de législation? Est-ce que c'est l'État moderne, son féminisme ou son antiféminisme qu'on peut rendre responsable de la persistance des inégalités? Est-ce que c'est le système et l'organisation économique néolibérale qui est responsable, ou alors l'absence ou le manque de la démocratie, puisque effectivement c'est très difficile d'envisager l'égalité dans un cadre non démocratique, hein. Ou est-ce que c'est parce que malgré l'existence de ces mouvements de femmes dans ces pays-là, eh bien, le mouvement, depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, s'est vraiment limité au sein des classes moyennes et aisées. Et donc, moi, pour ma part, je pense que contrairement aux analystes très culturalistes et essentialistes, il faut prendre en considération la combinaison de plusieurs facteurs qui expliqueraient, pour ma part, la persistance des inégalités sociales et légales. Je voudrais, avant, étant donné que le genre apparaît dans le titre de mon intervention, juste dire deux mots sur ce que moi j'entends par le genre, hein, que je définis comme rapports sociaux de sexe. Donc par genre, j'entends pas les femmes, mais les rapports sociaux de sexe, qui revêt d'un double facteur de stratification sociale. Il creuse les inégalités, tout en contribuant, comme je viens de dire, à aggraver les écarts socio-économiques au sein des femmes elles-mêmes. Et, bien évidemment, ces écarts qui se sont creusés, c'est aussi l'un des impacts, ne l'oublions pas, de la globalisation économique aussi. Donc, j'essaie très brièvement d'examiner l'ensemble de ces facteurs, et à travers cet examen rapide, on va aussi voir que effectivement, quels sont les changements survenus au sein aussi des mouvements des femmes. On constate qu'avec l'avènement de l'État-nation dans ces pays-là, les femmes ont été intégrées, tant bien que mal, dans le programme général de développement et de progrès, qui d'ailleurs était très cher aux souverains modernisateurs. Elles ont obtenu le droit au travail et à l'éducation, et puis plus tard aussi les droits politiques. Par exemple, en Turquie, vous savez que les femmes ont obtenu les droits politiques en 1934, c'est-à-dire 10 ans avant les femmes françaises, ou encore en Égypte après le coup d'État des officiers libres en 1956. Ce qui ne veut pas dire que les femmes n'avaient pas, comme je viens de dire, elles avaient ces revendications-là, mais l'octroi des droits était beaucoup plus tardif. Dans le cas de la Tunisie ou du Maroc, c'est après l'indépendance aussi, et dans le cas de l'Iran, 1963. Mais ces États ont demandé aux femmes de porter le fardeau de mère de la nation, celle qui transmet la culture, qui reproduisent les frontières des groupes ethniques et nationaux, celles qui sont symboles par excellence de la différence nationale et religieuse. D'ailleurs, on constate pourquoi, dans beaucoup de codes civils dans ces pays-là, mais pas que dans ces pays-là, on a essayé, si vous voulez, d'empêcher les mariages mixtes, et par exemple, la transmission de nationalité des femmes mariés avec des non-nationaux n'a pas été possible pour certains pays jusqu'à très dernièrement, et pour certains pays c'est encore c'est-à-dire que les femmes qui se marient avec des étrangers ne sont pas en mesure de transmettre leur propre nationalité à leurs enfants. C'est le cas de l'Iran par exemple. Alors les mouvements nationalistes ont effectivement invité les femmes à participer à la vie collective, mais leur ont donné des limites à respecter, notamment des limites culturelles. Ces mouvements ont exercé une pression sur les femmes afin qu'elles articulent leurs intérêts dans les termes établis par le discours nationaliste et également islamiste. Et là, je ne vois pas beaucoup de différence entre le discours nationaliste et le discours islamiste s'agissant des femmes. Pour les deux, il s'agissait effectivement de demander à ces femmes de porter ce fardeau dont je viens d'expliquer. D'ailleurs, si on regarde le langage du nationalisme, tout comme celui de l'islamisme, les deux langages choisissent les femmes comme les dépositaires symboliques de l'identité de groupe. Mais également dans ces pays-là, le nationalisme a transformé le genre et la sexualité, a produit l'hétéronormalisation de l'amour et de la sexualité. Dans un pays que je connais mieux, l'Iran, avant l'idéologie nationaliste, d'autres formes de sexualité ont existé. D'ailleurs, il suffit de s'intéresser à la poésie persane, Hafez en particulier, mais pas que, pour se rendre compte que on n'est pas sûr que l'être aimé dans ces poèmes-là est nécessairement une femme. D'ailleurs, beaucoup pensent qu'il s'agissait donc d'un homme et des jeunes hommes, d'ailleurs. Mais en tout cas, le nationalisme considère homosexualité comme arriérée et bannit donc l'homosexualité, et donc l'hétérosexualité et l'hétéronormalisation devient la norme. En même temps, la patrie, l'image de la patrie est souvent une femelle vénérée qui consolide l'amour hétérosexuel, et en même temps le mariage est transformé donc d'un contrat de procréation à un contrat d'amour, si vous voulez, c'est-à-dire un contrat romantique. En revanche, qu'est-ce qu'on demande donc aux femmes ? On demande aux femmes de sortir de foyer traditionnel, de devenir le plus actif, de s'éduquer, mais en même temps, on ne demande pas réellement aux femmes de devenir égales aux hommes, on demande autre chose, c'est-à-dire finalement, on demande aux femmes de devenir des gestionnaires du foyer, on demande aux femmes de devenir meilleures éducatrices des hommes de la nation, mais elles-mêmes devait rester à l'écart de tout ça. Donc, l'espace domestique est transformé, les femmes deviennent de plus en plus instruites, mais en même temps, il ne s'agissait pas, comme je viens de dire, de faire d'elles des personnes actives sur la scène politique nationale. Les filles, comme Bernard Berger l'a dit, deviennent de plus en plus instruites, en milieu urbain en particulier. Les femmes, à partir de certaines périodes, les femmes accèdent à l'enseignement supérieur et même à certains emplois, notamment dans l'administration, mais aussi dans l'enseignement surtout. Mais en dépit de tous ces changements, si vous regardez l'ensemble de ces pays-là, ce qui se passe, c'est que finalement, dans le discours dominant, la femme mère restait quand même privilégiée par rapport à la femme citoyenne, et on demandait en réalité aux femmes d'être modernes, mais néanmoins modestes. Donc il ne s'agissait pas de chercher l'égalité. En plus, les réformes dont je parle n'ont pas défié les rapports de genre au sein de la famille, que j'analyse personnellement comme un site de pouvoir en dépit de l'existence des rapports romantiques, amoureux, tout ce que vous voudrez, et en même temps, à l'exception de la Turquie avec son code civil de 1926, les codes civils ou codes de statut personnel étaient encore largement calqués et sont encore largement calqués sur la charia, sur les lois islamiques, mais aussi sur les règles coutumières qui, dans l'ensemble, attribuent à l'homme l'autorité dans l'institution familiale, mais aussi dans la sphère publique. À titre d'exemple, le père du Shah d'Iran, qui était un modernisateur sans aucun doute, mais autoritaire là aussi sans aucun doute, a aboli les tribunaux religieux, tout comme Atatürk ou ailleurs dans le monde musulman. Néanmoins, le code du statut personnel continuait à rester entièrement calqué sur les lois islamiques. Or, il avait tout à fait le droit et le pouvoir de changer le code. C'était un code civil nouveau hein, de 1933, mais qui restait entièrement calqué sur les lois islamiques, c'est-à-dire les femmes restaient sous la tutelle de leur père, ensuite sous la tutelle du mari, c'est-à-dire que la polygamie n'avait pas été abolie, c'est-à-dire que dans le cas de l'Iran, tout comme d'autres pays chiites, duodécimains, il y a un mariage dit temporaire qui existe, et donc même le mariage temporaire n'avait pas été aboli, etc. Dans le cas du code civil de Bourguiba, comme il le disait lui-même d'ailleurs, il s'agit d'une réforme de la charia, c'est-à-dire que c'était une vision réformiste des mêmes lois islamiques, hein, et donc il ne s'agissait donc pas d'établir l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense aussi que le code civil turc de 26, qui était beaucoup moins discriminatoire par rapport aux femmes que les autres codes, était loin d'avoir établi l'égalité parce que les hommes restaient chefs de foyer. C'était eux qui décidaient pour le lieu de là où la famille devait habiter, que les femmes turques devaient continuer à porter, enfin devaient porter le nom de leur époux, etc. En revanche, et à la différence de l'ensemble des pays musulmans, le seul pays à ma connaissance où le droit successoral n'était pas calqué sur les lois islamiques, c'est la Turquie. C'est-à-dire que dès le départ, dès 1926, les femmes héritent la même part que les hommes. Et ça, c'est très, très important parce que quand on continue, même si on accorde, et c'est le cas de la Tunisie actuellement, c'est-à-dire que même si on accorde l'égalité des droits dans le code civil aux femmes, mais on leur refuse la part égale de l'héritage, ça veut dire qu'on est en train de les discriminer, puisque nous n'oublions pas que le pouvoir économique, notamment actuellement dans le pays, c'est quand même un pouvoir très, très important. Et qui a des connotations très importantes quand on prive les femmes de cette égalité-là, notamment des femmes, bien évidemment, qui peuvent quand même hériter quelque chose. On n'est pas en train de parler des femmes pauvres qui n'héritent rien du tout. La différence, donc, en plus de ça, moi, je voudrais aussi attirer votre attention sur la différence entre les lois et l'application des lois. L'ensemble des recherches montre que ce sont effectivement des femmes issues des classes moyennes aisées ou des classes aisées qui peuvent bénéficier des lois quand elles sont, par exemple, nos recherches montrent sur le divorce, même dans les pays là où le divorce est très difficile à être obtenu par les femmes, mais ce sont surtout des femmes qui sont économiquement indépendantes, des femmes qui appartiennent aux classes aisées, si vous voulez, qui sont en mesure de négocier avec leur époux et obtenir un divorce par consentement, tout en laissant bien évidemment leur bagage financier à leur époux, ce qui bien évidemment n'est pas à la portée de l'ensemble des femmes. Autre chose qu'on peut très aisément constater, il suffit d'aller au Maroc par exemple, on constate que ça fait maintenant plus de 11 ans que le code du statut personnel marocain a été réformé, mais il y a énormément de problèmes pour sa mise en application et finalement ce ne sont que des femmes des classes là encore moyennes aisées urbaines qui ont surtout pu bénéficier de cette réforme. Dans l'ensemble de ces pays, je pense néanmoins que la citoyenneté formelle accordée aux femmes par l'élite dominante était une stratégie d'insertion sociale dans le régime politique, mais a eu des conséquences à la fois émancipatrices et régulatrices. Donc c'est ça, si vous voulez, le paradoxe. Et parfois, dans certaines circonstances, les femmes, effectivement, ont pu profiter de ce double visage de ces réformes afin de se chercher et d'obtenir de meilleures positions. D'une part, ces réformes ont tenté d'éviter l'émergence de la citoyenneté par le bas et ne visaient pas non plus la construction de la société civile. Si on regarde qui étaient les décideurs ou les hommes politiques qui ont accordé ces droits aux femmes il ne s'agissait pas des démocrates, donc il ne s'agissait absolument pas de construire la société civile ou de répandre la société civile. Il ne s'agissait pas de mettre un terme aux inégalités non plus, mais de faciliter l'accès réglementé des femmes instruites et modernes en particulier à la sphère publique. De plus, la préservation de l'autorité patriarcale au sein de la famille s'avérait indispensable au renforcement de l'ordre politique patriarcal qu'incarnait leur pouvoir. Alors, dans l'ensemble de ces pays-là, néanmoins, on est face à l'existence des mouvements des femmes urbaines qui étaient limités et le sont d'ailleurs encore aujourd'hui dans une large mesure aux classes moyennes et supérieures. Ces mouvements étaient liés aux changements socio-économiques ou alors au développement et ou au développement politique de leur pays, de ces pays respectifs. Ils en ont été affectés et ont laissé également leur propre empreinte sur ces mouvements. Donc, dès le départ, il s'agit des mouvements hétérogènes et pluriels, non pas nécessairement en termes de leur base sociale, mais plutôt en termes des revendications. Et aussi, je vais vous montrer qu'il s'agissait dès le départ à la fois des femmes séculières et aussi des femmes qu'on peut qualifier d'islamiques, non pas d'islamistes, mais d'islamiques aujourd'hui, notamment dans le cas de l'Égypte. C'est clair. Donc, dans un premier temps, effectivement, il s'agissait des femmes issues des élites qui étaient aussi, dans beaucoup de cas, influencées par la lutte des féministes occidentales, étaient insérées aussi dans les associations internationales. Je pense notamment à Houda Charaoui, la féministe égyptienne, l'icône donc de féminisme égyptien, qui était elle-même d'origine aisée, c'est-à-dire mariée à un homme très aisé et qui était l'un des dirigeants de WAFT, de parti WAFT, c'est-à-dire le parti nationaliste égyptien, qui fonde dans les années 20 une organisation appelée égyptienne et aussi un journal. Alors, c'est intéressant parce que son journal était en langue française. Donc, bien évidemment, ce journal ne s'adressait pas aux femmes arabes qui, à l'époque, n'étaient même pas alphabétisées et encore moins francophones. Donc là, c'est intéressant de voir que dès les départs, ces mouvements étaient des mouvements vraiment qui s'adressaient à une petite partie de la population. Puis, ce qu'on constate néanmoins, c'est que dès le début, dès la fin du XIXe siècle, à la fois en Égypte, mais aussi en Iran, il y a la publication des journaux de femmes. C'est la raison pour laquelle, je m'excuse, mais quand j'entends certains et certaines dire que certains hommes sont les pères du féminisme en Égypte ou en Tunisie, j'ai envie de dire, mais lisez un petit peu quand même l'histoire, parce que par exemple Rassem Amin, certains l'appellent le père du féminisme égyptien, mais Tahrir al-Mara a été publié bien après les journaux de femmes, hein, et d'ailleurs pour parler aussi dire un mot à propos des femmes syriennes qui sont dans une situation très difficile, le premier journal de femmes en Égypte a été fondé par une Syrienne. Donc on constate que là c'était vers la fin du 19e siècle. En même temps, ce que nous pouvons effectivement voir, c'est qu'à cette époque-là, émerge aussi un certain nombre donc, je ne peux pas les appeler féministes, mais c'était des militantes des droits des femmes qui n'étaient pas occidentalisées et qui ne voulaient pas non plus que leur pays soit occidentalisé, mais demandaient ce qu'on appelle aujourd'hui et qui est très à la mode, la réinterprétation, les lois et les traditions au profit des droits des femmes. Par exemple, en particulier, il y avait plusieurs, y compris en Turquie d'ailleurs, issues souvent de l'élite, voire de classe moyenne en Égypte, hein, qui demandaient la réinterprétation afin de éradiquer la polygamie, en fait, d'abolir, pardon, la polygamie. Ce que je veux dire, c'est que, chemin faisant, les femmes d'élite, de classe supérieure, viennent être concurrencées par des femmes issues plutôt des classes moyennes, mais également nationalistes. Et là où ces femmes se retrouvent à cette époque-là, en Égypte en particulier, c'était le nationalisme. Sinon, il ne s'agissait pas du tout, à mon sens, ni des mêmes revendications, ni de la même perspective. Certaines militantes des droits des femmes ont demandé à cette époque-là le retour à l'âge d'or de l'islam, je cite. Hein. Par exemple, Fatima Rachid fonde une association dès 1908 et publie aussi un journal pour que les femmes retournent à la religion et demande aux femmes d'être modestes. Mais au sein de la même mouvance, on retrouve d'autres femmes. À mon sens, Labiba Ahmad, c'est quelqu'un de très intéressante puisqu'il s'agit d'une nationaliste religieuse, fille d'un médecin et épouse d'un juge qui fonde en 1921, c'est-à-dire au même moment que Hoda Sharawi, la Société du réveil des femmes égyptiennes et un journal. Elle utilisait Je cite Beth Baren, qui a beaucoup travaillé sur historienne, qui a beaucoup travaillé sur la question. Elle disait que Ahmed utilisait un langage conservateur et demandait le retour aux traditions, mais ses perspectives et pratiques étaient ancrées dans la modernité et la culture politique contemporaine. Et je pense que c'est très important ce qu'elle dit là, qui concerne 1908, mais au jour d'aujourd'hui, je pense il faut être attentif, bien évidemment, dépasser le premier degré de voile ou ce qui peut nous paraître comme un discours conservateur pour voir ce qui est effectivement derrière. Alors, concernant mon pays natal, l'Iran, je vous l'ai dit, dès 1905, certaines femmes se sont réunies dans des associations secrètes, ont participé à la révolution constitutionnelle. Certaines d'entre elles ont même pris les armes, mais les hommes leur ont demandé d'oublier les armes en leur disant « vous nous soutenez, mais ce n'est pas la peine que vous participiez armés dans le mouvement ». Et donc, elles ont commencé à publier, elles aussi, dès ces années-là, des journaux, pas seulement à Téhéran, la capitale, mais aussi dans beaucoup de villes de province. Et dans ces journaux, c'est très intéressant parce qu'elles discutaient des choses et d'autres, c'est-à-dire des questions qui concernaient les femmes, tout comme d'ailleurs en Égypte ou encore en Turquie. Dans ces années-là, il y avait une unanimité quant, par exemple, à l'éducation des femmes, il y avait une unanimité quant à l'acquisition des droits politiques pour les femmes, et c'est la raison pour laquelle elle demande les droits politiques dès 1906 auprès du premier Parlement, mais à l'époque, un seul député les soutient et finalement en 1909 elle occupe le parlement iranien de l'époque et organise un sit-in et demande les droits politiques qui ne sera bien évidemment pas accordé. En même temps, la seule question quand on lit leurs journaux, la seule question autour de laquelle il n'y avait pas d'unanimité, c'était la question du voile. Parce que certaines de ces femmes, alors parmi lesquelles se trouvaient aussi parfois des princesses de l'époque, la dynastie Qajar, demandaient l'abolition du port du voile et pensaient que l'arriération des femmes, je les cite, la responsable de l'arriération des femmes était le voile qui empêchait les femmes d'accéder à l'espace publics. D'autres, en revanche, qui également publiaient des journaux féminins, pensaient que le voile, c'était pas le voile qui empêchait les femmes d'accéder à l'espace public, et en tout cas, on pouvait pas jeter toute la tradition. Il fallait garder aussi une partie de ces traditions-là. Ce qui était important, c'était de fonder des écoles, d'alphabétiser des filles et aussi des associations de femmes. Et c'est précisément ce qu'elles font. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on constate que parmi elles, il y avait énormément de discussions et de débats très intéressants et vraiment d'actualité hein, pour en ce qui nous concerne aujourd'hui. Mais l'avènement d'un modernisateur autoritaire qui est Reza Shah dès les années 1920 en Iran, mais aussi Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk en Turquie, vont mettre fin à ces débats très libres, justement, liberté et contrainte, n'est-ce pas? Les contraintes, c'est aussi et surtout dans ces pays-là des régimes issus des régimes dictatoriaux, puisque à la fois en Égypte, à la fois en Iran et en Turquie, dès les années 20, arrivent ces deux modernisateurs autoritaires qui vont mettre fin à ces activités autonomes, indépendantes des femmes et ces mouvements qui sont vraiment issus par le bas. Aujourd'hui, on aurait dit de la société civile et qui essayaient, par exemple, d'ouvrir des écoles, des associations, d'alphabétiser, de porter cette culture, y compris d'ailleurs l'hygiène et comment il fallait éduquer les enfants. Ça aussi, ça allait main dans la main avec le rôle qu'on accordait aux femmes en tant que mères modernes et comment éduquer donc les enfants. Nous avons une littérature intéressante d'ailleurs là-dessus. Et en tout cas, en Turquie par exemple, les associations des femmes seront interdites et même les femmes qui à l'époque demandaient d'organiser un parti politique, bien évidemment, n'ont pas reçu une réponse favorable jusqu'aux années 45-46, même après, il n'y avait aucune association de femmes en Turquie, aucune association. En Iran, pareil, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ces femmes qui n'étaient pas pro-chat seront emprisonnées, en tout cas leurs activités seront interdites et l'ensemble des activités de ces associations seront interdites. Certaines de ces femmes seront cooptées hein, par le pouvoir et deviennent ce qu'on appelle les fémocrates ou les féministes d'État. En Égypte, ce qui se passe un peu plus tard sous Nasser, alors en Égypte, la question est différente, c'est intéressant parce qu'à partir des années 20, l'espace se referme, les contraintes vraiment sont très importantes sur les femmes. En même temps, l'Égypte, dans ces années-là, a acquis son indépendance nominale. Et donc, à partir de là, les femmes sont beaucoup plus libres. Et donc, on est face en Égypte, au contraire de l'Iran et de la Turquie, à la prolifération des associations de femmes, des organisations de femmes de différentes sortes. Alors, à la fois des associations du type séculière, je ne dis pas laïque, je dis séculière, et aussi du type islamique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, intéressant, c'est pas intéressant, ce que je veux dire, c'est qu'après l'avènement de Nasser, après le coup d'État, l'ensemble de ces activistes voient leur activité interdite une fois de plus. Donc là, je pense que la contrainte ne venait pas du tout de l'islam, contrairement à ce que disent certains et certaines, mais bel et bien donc des régimes politiques non dictatoriaux en place, qui ont voulu tout, bien sûr, organiser, y compris les droits des femmes. Et donc, on est face à l'avènement du féminisme d'État, qui, comme je viens de dire, s'est produit au détriment des activités indépendantes des femmes. Cette forme de féminisme d'État était dominée, bien évidemment, par les femmes d'élite étatique, et devient l'instrument de l'appareil d'État et de son idéologie. Les fémocrates, on peut donner quelques exemples de, qui ont perduré, bien sûr, seront de nouveau concurrencés par des femmes instruites des classes moyennes, séculières et religieuses. Dans ces années-là, on est maintenant dans les années, je parle des années 1970, par exemple la femme d'Anwar el-Sadat en Égypte, la sœur du Shah en Iran, ou encore les femmes proches, les femmes kémalistes donc en Turquie, les femmes proches de Bourguiba, etc. Ce sont les figures de ce féminisme d'État. En même temps, ce qui est intéressant dans la question des droits des femmes et les pourquoi et les comment, c'est bien évidemment l'internationalisation l'internationalisation notamment portée par les Nations Unies, qui a eu là aussi, à mon sens, des impacts à la fois émancipateurs et régulateurs. Dans quel sens ? Dans le sens que, par exemple, vous savez que en 1970, il y a 75 très précisément, il y a la décennie des Nations Unies qui est décrétée par l'ONU. Donc à partir de là, en 75, la première conférence internationale a lieu au Mexique, à Mexico, qui sont les femmes qui participent, bien évidemment les femmes d'élite, c'est-à-dire les fémocrates, si vous voulez. Donc les femmes du peuple sont à l'écart de tout ça. Néanmoins, on constate que suite à cette décennie-là, un certain nombre de lois sont réformées pour donner plus de droits aux femmes. Donc, alors, néanmoins, ce sont des femmes, là encore, d'élite, des classes moyennes, urbaines, etc., ou classes aisées qui profitent de cette internationalisation. Et un autre exemple de l'internationalisation, c'est bien évidemment, vous le savez, la CEDEF, ou la Convention contre toute discrimination à l'encontre des femmes, donc qui a été établi par l'ONU en 1979, et à partir de là, beaucoup d'États ont adhéré à la Convention et beaucoup l'ont ratifiée, mais pas tout le monde. Alors, adhésion ne veut pas dire que les choses vont changer. Par exemple, l'exemple par excellence que je donne toujours, c'est l'Arabie Saoudite qui a adhéré à la CEDEF, ou CEDAW en anglais, en 1993, mais avec 36 000 réserves, puisqu'on peut adhérer et mettre des réserves. Mais un autre exemple, c'est le cas du Maroc, hein, qui a adhéré, mais qui a mis énormément de réserves, mais qui petit à petit a commencé, sous la pression des militantes des droits des femmes de ce pays-là, donc a commencé à enlever un certain nombre de ces réserves-là. Donc adhésion, c'est quand même mieux que la non-adhésion. Mais certains pays ont ratifié, d'autres pas. Les États-Unis, c'est un exemple très intéressant. L'adhésion à la CEDEF dès son avènement, c'est-à-dire par le président Jimmy Carter. Au jour d'aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas ratifié la CEDEF. Pourquoi, à votre avis? Parce que pour ratifier, ben, il faut faire promulguer la loi par le Parlement. Et aux États-Unis, donc la Chambre des représentants et le Sénat sont contre parce que le poids des républicains et des fondamentalistes est très très important. Or, un certain nombre d'articles de la CEDEF ne leur convient pas, et au jour d'aujourd'hui ça n'a pas été, et là cette année encore, il y a un mois de ça, les militantes des droits des femmes américaines ont fait pression de nouveau sur Obama pour qu'il fasse quelque chose, et à ma connaissance ça n'a pas été fait. Alors vous avez d'autres États comme l'Iran qui n'ont même pas adhéré à la CEDEF, c'est-à-dire malgré, dans les années 2000, il y a eu un élan important de la part des réformistes iraniens à l'époque au pouvoir qui souhaitaient le faire, mais les institutions iraniennes n'ont pas voulu. En tout cas, on est, puis en 85, Il y a eu donc la deuxième conférence internationale à Nairobi. Là, cette fois-ci, il y a aussi beaucoup de femmes membres des organisations non gouvernementales, des militantes qui y sont allées. Et je pense que la plus importante de ces conférences, en termes de participation, pas seulement des femmes officielles, mais aussi des non-officielles, c'était la conférence de Pékin de 1980. Là où on a vu effectivement la face-à-face entre celles qui étaient pour l'égalité et celles qui étaient pour l'équité. Donc le débat, bien évidemment, continue. Maintenant, justement, parlant de l'équité, ça me ramène. Alors, ce que je veux dire, c'est que donc on a vu très brièvement. Les féministes ou les militantes des droits des femmes, certaines sont féministes, d'autres pas, dans ces pays-là depuis le 19e siècle. On a vu très rapidement le féminisme d'État et on voit maintenant l'émergence, en particulier à partir des années 1990, de ce qu'on appelle le féminisme islamique. Alors, c'est quoi le féminisme islamique? D'ailleurs, les féminismes islamiques au pluriel, parce que chaque cas dans chaque pays est tellement différent. Les raisons de l'émergence de ces féminismes sont différentes, mais en tout cas, les revendications sont différentes aussi. Dans certains cas, il s'agit de revendiquer l'égalité, dans d'autres cas, il s'agit de revendiquer l'équité. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, personnellement, je ne suis pas tout satisfaite de cet amalgame de ce que font certains et certaines, comme s'il s'agissait d'un seul féminisme islamique. En tout cas, le féminisme islamique a émergé en Iran à partir des années 1990. Donc il s'agissait d'un État qui se dit islamique, des lois qui sont calquées sur le modèle islamique. La première chose que d'ailleurs a été que le régime islamique a effectué après la révolution, c'était de rétracter le code civil du Shah, qui lui-même était calqué sur une vision réformiste de l'islam, des lois islamiques, pour imposer un modèle issu, si vous voulez, d'une interprétation très conservatrice et traditionnaliste de la charia. Par exemple, l'âge minimal de mariage en Iran pour les filles a été ramené, c'était de 9 ans, c'était devenu 13 ans, et grâce justement à la décennie des Nations Unies, Baloucha a décidé que l'âge minimal devait augmenter, et donc il est devenu 18 ans, l'âge minimal au mariage pour les filles. Après la révolution, l'âge minimal a été ramené à 9 ans. Ça, c'était vraiment à peine un mois après la victoire de la révolution, la première chose que le régime islamique a effectuée. Et si on regarde bien d'ailleurs l'islamisation, ou regardez un petit peu le programme des forces politiques islamistes, ce qu'on constate effectivement, c'est la défense justement de nos femmes, de nos familles, bastions de résistance. Là, c'est dans le programme du fils algérien que je cite. Ou encore, si vous regardez par exemple les islamistes marocains qui, à l'époque, en l'an 2000, étaient contre la réforme de la Moudawena et qui ont beaucoup, beaucoup mobilisé à Casablanca, c'était dans leur programme, c'était ça, la défense de la famille, la défense de nos femmes. Et nos femmes sont qui? Bien évidemment, les gardiens des traditions. Ça veut dire quelque part aussi, selon les islamistes, il faut qu'elles soient les gardiennes de l'ordre patriarcal. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les féministes islamiques en Iran sont des fruits d'un processus de changement social. Néanmoins, la révolution a bouleversé le pays. Et par exemple, on constate en termes d'alphabétisation, d'accès des femmes à l'éducation, à l'enseignement supérieur et aussi la sphère publique. Puisque même si le voile islamique est devenu obligatoire, là encore, c'était assez rapidement après la révolution, beaucoup de familles qui étaient déjà religieuses et traditionnelles, c'est-à-dire la majorité de la population iranienne au moment de la révolution, on oublie souvent, mais c'était ça la réalité de l'Iran aussi, ont accepté d'envoyer leurs filles dans la rue, ont envoyé leurs filles à l'école et à l'université, ce qui était rare avant la Révolution, parce que j'étais moi-même étudiante. Je ne vous donne pas mon âge, mais j'étais étudiante déjà avant la Révolution et dans ma fac à Téhéran, on n'envoyait pas de filles voilées. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais on n'envoyait pas. Et après, quand j'ai interviewé un certain nombre de ces femmes après la Révolution, j'ai effectivement appris, je savais que si on était voilé, on ne pouvait pas travailler dans l'administration, c'est-à-dire là où la quasi-totalité des femmes urbaines travaillaient. Donc vous voyez que ces femmes d'origine traditionnelle religieuse étaient écartées de la sphère publique. Et donc le voile, qui était à mon détriment, certes, n'était pas au détriment de ces femmes-là. Au contraire, leurs parents ont accepté qu'elles puissent aller à l'université et à travailler, entre guillemets, à cause du voile qu'elles portaient. Donc, les féministes islamiques iraniennes sont issues des classes moyennes traditionnelles. Certaines sont issues des classes défavorisées, d'autres classes moyennes. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Révolution, une fois qu'on a écarté les femmes laïques ou séculières de leur emploi, ça a été un moyen d'ascension sociale, bien sûr, pour ces femmes-là. Mais elles sont elles-mêmes, à mon sens, le fruit d'une hybridation. C'est-à-dire que si, dans l'histoire de ces pays-là, les féminismes séculiers n'avaient pas existé, on ne pouvait pas avoir le féminisme islamique. Ça ne tombe pas du ciel. C'est quand même une hybridation par rapport à ce qui a existé avant leur avènement. Et donc, elles se positionnaient, je dis positionnaient parce que les choses ont changé. Là aussi, il faut historiciser. Ce que je vous raconte, c'est passé dans les années 1990, on est en 2014, beaucoup de choses ont changé, mais à l'époque, elles se positionnaient au sein de la communauté musulmane, se référaient au Coran et aux traditions islamiques, mobilisaient le capital symbolique de l'islam, mais se référaient aussi, aujourd'hui, elles se réfèrent aussi et de plus en plus aux chartes et conventions internationales afin de construire une rhétorique qui revendique la réinterprétation du Coran et des traditions islamiques au féminin, afin d'atteindre l'égalité entre les hommes, avec les hommes. Voilà, c'est ça. Donc, les féministes islamiques iraniennes, la quasi-totalité d'entre elles, revendiquent l'égalité aujourd'hui. Et certaines ne s'appellent même plus islamiques. Elles sont devenues tout simplement féministes. Et elles s'appellent tout simplement féministes. L'exemple par excellence, hein, c'est Madame Shahla Sherkat, que certains connaissent peut-être, puisque le CNRS Édition a publié il y a quelques années de ça un recueil traduction d'un recueil d'articles de magazine Zanan, qui était un magazine féminin très influent de l'Iran post-révolutionnaire, donc par cette éditrice Shahla Sherkat, qui a introduit cette question de relecture du Coran et réinterprétation, qui était très courageuse d'ailleurs à cette époque-là, en 92. Elle s'est affichée par la suite comme le premier journal féministe de l'Iran. Voilà, vous voyez que les choses changent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un regard justement statique de ces femmes non plus. Ce qui est à l'origine de ces mouvements partout aujourd'hui dans les mondes musulmans, alors c'est que dans certains cas, il s'agit d'un mouvement par le bas, issu lui-même de l'islamisation par le haut. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire qu'en Égypte, la charia devient la source principale de la loi en 1980 par le président Sadat. Faut pas oublier ça. Au Pakistan, 1973, c'était pas le cas avant. Et donc, il y a, face à l'opposition politique existante, un certain nombre de ces États, effectivement, islamisent les lois, c'est-à-dire les lois du code civil, pour dire qu'ils sont encore plus islamistes que leurs opposants islamistes. Et donc, cette islamisation par le haut, finalement, aboutit à cette réislamisation par le bas, et donc ces revendications-là. Donc je pense qu'effectivement, il m'est très difficile de travailler sur les questions de genre, les inégalités sociales, etc., y compris des lois hein, qui participent quand même au renforcement de ces inégalités-là, sans aussi m'intéresser à l'État. Voilà. Et au pouvoir, parce que tout ça, pour moi, c'est une question aussi de pouvoir, bien sûr. Et puis, dans certains cas, comme au Maroc, le féminisme islamique, c'est plutôt une invention de la monarchie plus qu'autre chose. Parce qu'il suffit de regarder les murshidat, on comprend que les murshidat ont été impulsés par le roi. Et beaucoup de féministes séculières marocaines pensent effectivement qu'on a créé des rivales devant elles. En tout cas, elles sont formées, comme vous le savez peut-être, par le gouvernement. Donc, en tout cas, je veux dire que ça revêt de différentes formes dans différentes sociétés. En Turquie, face au kémalisme, certaines, dès les années 1980, certaines femmes, après le coup d'État, quand l'islam commence à être reconnu comme faisant partie du passé de la Turquie extra dans la Constitution et que on utilise les confréries islamiques, on constate aussi l'émergence et la montée en puissance d'un certain nombre de ces islamiques, féministes islamiques militantes, comme, alors je vous nomme juste Sihan Aktaş et aussi Madame Tüksal, qui sont des militantes islamiques qui réinterprètent au féminin le Coran et la tradition islamique. Mais on peut aussi constater qu'au sein de AKP au pouvoir, il y a aussi beaucoup de militantes très bien instruites aussi qui se disent et féministes islamiques. Mais comme on l'a pu aussi voir l'année dernière en Turquie, lors des événements de la place Taksim, il y a des femmes qui sont féministes islamiques, mais qui appartiennent à l'extrême gauche et qui étaient sur la place Taksim et qui ont fait des alliances d'ailleurs avec les femmes transgenres et transsexuelles, etc. C'est-à-dire, si vous voulez, que voilà, ces choses-là existent. C'est beaucoup plus compliqué et complexe que juste dire... une telle a un voile sur la tête et donc il faut l'écarter. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qu'on constate de façon générale, c'est que les pressions sociales néanmoins sont exercées par beaucoup de ces femmes qui, comme on l'a dit, sont de plus en plus instruites, aspirent de plus en plus au changement et savent de plus en plus aussi ce qui se passe ailleurs. Qui sont aussi très impliqués dans des activités différentes, à la fois sociales, culturelles, également économiques et politiques. Alors, si on regarde bien sûr les statistiques officielles, c'est dans les 20% hein, en gros, dans ces pays-là, le taux d'activité officielle des femmes, c'est dans les 20-24%, en Turquie plus que les autres 35%, puisque ce n'est pas un État entier, justement la Turquie, mais en même temps, en Iran, c'est 15%, en Arabie, c'est 15%, en Algérie, c'est 16%. C'est parce que c'est des États entiers. Il faut aussi prendre en considération la nature de l'économie de ces pays-là qui impulse certaines femmes sur le marché de l'emploi, alors que dans d'autres cas, on leur demande de rester à la maison. Au contraire, mais en tout cas, quand on fait des recherches de terrain dans ces pays-là, j'en ai fait beaucoup en Iran et je commence en Turquie aussi, on constate que beaucoup de femmes travaillent, mais qui ne se nomment pas travailleuses, mais travaillent à la maison en tissant des tapis, en faisant... Bon, ça, c'est des femmes, bien sûr, des classes populaires, mais qui... produisent, qui vendent et qui empochent hein, souvent le fruit de leur travail, mais qui les dépensent aussi pour leurs enfants et la famille. Et ces femmes-là, néanmoins, qui travaillent dans le secteur informel de l'économie, il y en a beaucoup aussi au Maroc, on ne les voit pas dans les statistiques officielles. Mais force est de constater néanmoins que malgré cette activité économique, disons, dans le secteur informel, les femmes dans ces pays-là restent encore largement dépendantes de leur père ou de leur époux, etc. Et donc, ça, c'est l'un des problèmes, à mon sens, majeurs, hein, puisque comment peut-on parler de l'égalité alors que les femmes dépendent pour leur survie des hommes, d'une part encore largement aujourd'hui, et aussi d'autre part, comme on le verra tout à l'heure, l'écart aussi, comme je viens de dire, entre les femmes elles-mêmes a beaucoup creusé ces dernières années du fait d'une économie néolibérale et le retrait de l'État, du champ social, qui d'ailleurs, ne l'oublions pas, dans l'ensemble de ces pays-là, a laissé le libre cours aux organisations islamistes. On a des travaux très intéressants là-dessus. On les appelle les institutions islamistes, puisque en Égypte, puisqu'en Tunisie, puisque dans beaucoup de pays, en Turquie aussi, mais aussi au Maroc, ce sont ces islamistes qui, pendant de longues années, ont vraiment soutenu financièrement, médicalement, les populations défavorisées, qui étaient aussi leur agence pour l'emploi également, puisque d'où le retrait de l'État à partir des années 1980. Après, comment voulez-vous qu'après les révolutions arabes, par exemple, que les masses populaires, que les classes populaires n'aient pas voté pour ces islamistes-là, parce que ces islamistes-là, les classes populaires les connaissent très bien, mais on ne connaît pas tel groupe ou tel parti politique laïque, hein, qui d'ailleurs était frappé d'interdits, frappé de censure, et qui de toute façon n'était pas en lien avec les classes populaires. Donc voilà, on peut faire un coup d'État et écarter, je ne suis pas en train de faire la publicité pour les frères musulmans, mais la réalité de ces pays-là, c'est autre chose. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut mobiliser 10 millions de personnes, mais l'Égypte en a 80 000. Il ne faut pas oublier ça. Et l'un des problèmes majeurs dans l'ensemble de ces pays-là, c'est aussi que ces activités-là, y compris les activités féministes ou des mouvements des femmes, sont cantonnées vraiment au sein d'un certain groupe social, urbain, aisé, etc. Et on oublie souvent que les pays ne sont pas que ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que... autre chose qu'on peut voir, c'est l'ONGisation. J'ai parlé de l'internationalisation. Je voudrais parler maintenant de l'ONGisation avant de conclure. Les mouvements des femmes dans ces pays-là ont été ONGisés très massivement à partir notamment des années 1990, ce qui coïncide bien sûr avec, là encore, l'économie libérale, avec la crise économique qui est liée aussi au retrait de l'État et bien évidemment les politiques de réajustement structurel des années 1980 et la baisse des dépenses publiques, etc. Donc ce qui se passe, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce qui se passe, c'est que les ONG sont financées souvent par les institutions internationales, notamment le cas de l'Égypte ou de Maroc sont vraiment impressionnants, mais j'ai aussi, je travaille sur la Turquie, là aussi on voit qu'il y a beaucoup de ces ONG sont financées. Dans certains pays néanmoins, le financement des ONG est interdit par l'étranger, comme en Iran, et dans certains pays, toutes les ONG de femmes sont interdites de toute façon, donc là on est tranquille, c'est le cas de l'Arabie. Mais en tout cas, donc on finance les ONG de femmes. Les ONG de femmes interviennent soit sous forme de projets que les militantes appartenant aux classes moyennes, là encore, on se retrouve, hein, les classes moyennes, les classes aisées sont également celles qui travaillent avec les bailleurs de fonds internationaux. Il faut obligatoirement être anglophone si vous voulez obtenir de l'argent des bailleurs de fonds. Ça, c'est un problème très important. Parfois, francophone aussi, ça peut aller en ce qui concerne l'Union européenne, mais souvent l'anglophone pour ce qui concerne la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international ou des tas d'autres institutions. Les projets sont déjà prédéterminés. hein, n'est-ce pas, à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il s'agisse de la Turquie, du Maroc ou de l'Égypte ou de l'Indonésie, ça ne change pas. On ne regarde pas quelles sont les demandes, quelles sont les revendications. On dit, voilà, maintenant, il faut travailler sur l'harcèlement sexuel. Bon, parce que l'harcèlement sexuel, voilà, c'est ça le projet. Et donc, on finance les ONG de femmes qui doivent travailler sur l'harcèlement sexuel. Alors, harcèlement sexuel, c'est très bien. Hein. Moi, j'ai organisé récemment, pour la première fois d'ailleurs, paraît-il, en France, un colloque sur le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur. Hein. Donc, c'est, oui, mais donc, mais je pense pas que le problème principal des paysannes au fin fond de Maroc ou de l'Iran soit le harcèlement sexuel. Donc, voyez ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est imposé. Ou parfois, ça existe des ONG de femmes qui ne sont pas financées par les bailleurs de fonds internationaux nécessairement, mais nationaux, et donc elles disent avoir une marge de manœuvre plus importante, mais là, elles posent aussi des projets qui leur sont prioritaires. Et là non plus, on ne regarde pas quelles sont les priorités des femmes, disons, défavorisées. Et quand on regarde ça, je vous donne un exemple. Je posais la question, vous savez, à Istanbul, il y a une banlieue classe moyenne un peu défavorisée aussi, qui est beaucoup, qui vote depuis les années 90 beaucoup pour les partis Refa, Fazilat et AKP aussi aujourd'hui. Et donc, je demandais à ces militantes si elles sont jamais allées dans cette banlieue-là pour militer, etc., pour contacter des femmes qui ne sont pas nécessairement sur la place Taksim. Tout le monde n'y est pas. Elles m'ont dit oui, on est allées, on voulait les encourager, on voulait propager les tracts sur l'avortement et on a été obligé de quitter les lieux parce que ça ne passait pas. Bien sûr, enfin, premier contact, l'avortement, mais ça ne passe pas. Donc, vous voyez que la méconnaissance, quand on se cantonne toujours au même cercle de personnes, bien sûr qu'on perd de vue l'existence d'autres personnes qui ont d'autres priorités peut-être dans la vie ou qui pensent autrement que nous. Voilà, donc ONGisation, et quand on veut faire quelque chose pour ces femmes-là, la quasi-totalité des cas, devinez quels sont les cours qui sont organisés pour ces femmes-là? Couture. C'est-à-dire, on leur dit, bon, femmes, classe populaire, vous restez classe populaire. Couture, cuisine. Hein. Donc, l'écart se creuse aussi, pas seulement au plan économique entre les femmes, mais au plan aussi mental. C'est ça qui est aussi très, 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 à mon avis, risqué et dangereux. Bon, tout ça, ça fait partie des entraves, mais je voudrais quand même terminer avec une note un peu plus positive en vous disant que, en dépit des entraves, d'autres, on l'a vu, politiques, religieux, économiques, etc., et culturelles, des féministes et militantes des droits des femmes qui luttent pour l'égalité entre les sexes entendent décentrer le discours hégémonique par l'hybridation issue des luttes communes et des interactions entre actrices sociales et politiques différentes. On voit émerger dans beaucoup de ces pays cette conscientisation qu'on ne peut pas et on ne doit pas écarter l'autre parce que voilée ou l'autre parce que séculière, mais il faut qu'elles travaillent ensemble. Aujourd'hui, même les États masculins par excellence, ça c'est le titre d'un très beau livre sur l'Arabie Saoudite qui vient de paraître en anglais, l'État masculin par excellence, comme l'Arabie Saoudite ou d'autres monarchies arabes du Golfe Persique, je l'ai dit, qui subissent les pressions sociales à l'intérieur et sont parfois aussi stigmatisées par l'extérieur ou à l'extérieur, notamment depuis le 11 septembre, ne peuvent plus se justifier sans la figure et la voix féminine. C'est-à-dire que maintenant, je ne pars pas de la conférence de ce soir, loin de moi, l'ISM est vraiment pionnière dans l'organisation de ces discussions-là, mais aussi dans l'ensemble de ces pays-là, on est obligé maintenant, quelque part, de parler des femmes et de temps en temps de faire les petites réformes pour dire, regardez, moi je suis effectivement moderne. l'inclusion de plus en plus grande des femmes au travail et à la vie publique en général et l'octroi des droits politiques aux femmes dans ces monarchies à partir de 2005 montrent d'une part l'étendue des revendications inclusives des femmes, mais aussi l'instrumentalisation des femmes pour le, par le pouvoir pour éviter des réformes politiques tant attendues ou alors le respect des droits de l'homme. Les luttes des femmes déchantées après les révolutions iraniennes et notamment arabes et maghrébines, j'évite de dire arabes pour tout le monde parce que certaines dans ce pays-là ne sont pas arabes nécessairement, mettent en évidence la nature sexuée de la citoyenneté telle qu'elle existe et attestent de l'enjeu principal que représente la question de genre dans des pays où la religion a été instrumentalisée pour justifier l'ordre politique patriarcal. Ces luttes démocratiques, du fait de leur diversité politique, culturelle ou organisationnelle, montrent aussi qu'il est impératif et urgent de réhabiliter le féminisme, ce mouvement social qui a pour utopie le changement de l'ordre social. Merci.